À la fin du livre de l'Apocalypse de Jean, dans une vision qui parle de la destinée ultime de notre monde et de ses habitants, il est question d'une période de 1000 ans, qu'on appelle souvent le millénium. Cette période semble être un temps de restauration, juste avant l'exécution du jugement final et la création d'une terre nouvelle. Mais que se passera-t-il vraiment durant ces 1000 ans? Bonjour et bienvenue dans Il est écrit. Aujourd'hui, pour aborder un gros sujet, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans les milieux chrétiens, parmi ceux qui lisent la Bible, la question des 1000 ans de l'Apocalypse, le fameux millénium. Pour en parler, je reçois le docteur Luis Vicuña, avec qui on va plonger dans le texte biblique, puisqu'on est dans Il est écrit, pour essayer de comprendre ce qui doit se passer durant ces 1000 ans. Luis Vicuña, bonjour.
Bonjour Rémi.
Alors, le millénium, c'est plein de questions, parce que pour les uns, ça se passe sur la terre et c'est une période de paix. Pour d'autres, ça se passe dans le ciel et c'est une période de jugement. Pour d'autres encore, c'est une période transitoire.
Alors, d'autres, ça n'existe pas.
Pour d'autres, ça n'existe pas.
Aussi.
Alors, on ne va pas partir sur toutes les théories parce que d'abord, on ne s'en sortirait pas. Mmh. On aurait pour une heure. Et puis, deuxièmement, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce que dit la Bible.
Exact.
Et fondamentalement, il y a un seul texte.
C'est ça. C'est Apocalypse chapitre 20. On peut faire comme un parallèle avec Ésaïe aussi, le petit Apocalypse qu'on parle, mais c'est sûr, Apocalypse 20, c'est certainement le texte.
Alors, puisque c'est le texte de référence, on va y aller tout de suite. Et puis ensemble, on va lire, on va essayer de comprendre ce que Jean, inspiré par Dieu, a voulu dire. Je lis Apocalypse 20 à partir du verset 1er. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. »
Voilà donc ce texte. Premièrement, ce qu'il faut faire, c'est le placer chronologiquement.
Voilà. Quand est-ce que ça a lieu?
C'est ça. Donc, c'est ça la grande discussion aussi. Parce qu'il y en a ceux qui disent... ça, tout dépend du chapitre 19. Comment est-ce qu'on comprend le chapitre 19? Et sincèrement, quand on lit le chapitre 19 avec Jésus, qui, bon, c'est certainement Jésus qui est sur le cheval blanc, et avec tous les versets 14, dont par exemple les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur, etc. Et la guerre qui va s'interprendre donc contre...
Oui, dans tout le chapitre 19.
Dans tout le chapitre, c'est une énorme guerre qui, la plupart, pas tous, mais qui interprète ces chapitres comme le retour de Jésus, simplement.
On a vraiment l'impression, quand on lit ce texte, que c'est une description symbolique, mais du retour du Christ.
C'est ouais. Ça, c'est ça. Et donc, et détail important, c'est qu'à la fin, par exemple, juste le verset qui va précéder le chapitre
qu'on vient de lire.
Il dit, on peut le lire.
Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.
Voilà, donc aussi bien la bête que les faux prophètes sont détruits, verset 20, et ici c'est tous les autres, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont accompagné cette attaque contre Christ sont détruites, d'accord? Donc il y a énormément de cadavres sur la surface de la terre. Détail, c'est ce qu'ailleurs l'Apocalypse appelle l'Armageddon. Ce n'est pas une place géographique, hein, c'est une référence plus... au trône de Dieu, c'est toute une autre discussion, mais c'est certainement, il y a une guerre, il y a énormément de gens qui meurent, et Thessaloniciens, par exemple, mentionne que le retour de Jésus, c'est dans le feu, c'est dans la destruction.
Quand le Christ revient, il va prendre avec lui ce qui lui appartient, mais il va détruire aussi le mal.
C'est pour ça que le corps des justes va être transformé afin de supporter le feu qui arrive. Et c'est un feu qui va dévorer, détruire l'humanité presque entière, sauf ceux qui en auront le corps transformé. Donc, et par la suite, le texte des Thessaloniciens dit qu'ils vont monter au ciel avec lui. D'accord ? Il n'y a aucune référence à une descente. Hein.
D'accord ? Donc... Alors, ça, c'est important parce que ça veut dire qu'en en réalité, si on comprend bien, le Christ revient en gloire, il prend avec lui ce qui lui appartient, les autres sont détruits par l'éclat divin du Christ, mm-hmm. et c'est là qu'interviennent les 1000 ans.
Exact.
Ce qu'on vient de lire.
C'est ça, c'est le retour, c'est une sorte de sauvetage d'une population que Jésus veut sauver. Et puis, on laisse la terre, et c'est ça la suite. Hein.
Donc, alors justement, on a lu qu'il y a un ange qui a la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main, il prend donc le dragon qui représente le diable, et le lie pour 1000 ans. Ça veut dire quoi?
Voilà, donc qui est cet ange? C'est ça la question aussi. Hein. Tous les détails nous montrent que c'est Jésus. Détail, le mot... Ange veut dire envoyé, hein, celui qui a la tâche de faire quelque chose pour transmettre un message ou autre chose. Donc, qui est le seul qui a la capacité de prendre le diable et faire ce qu'il veut avec lui? Ce n'est pas un autre ange qui est son équivalent. Hein. Il faut que ce soit quelqu'un qui est au-dessus de lui. Hein. D'accord? Donc, c'est Jésus lui-même qui va avoir... Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse, celui qui a les clés, c'est seulement Jésus. Mm-hmm. D'accord? Celui qui peut fermer, ouvrir, c'est Jésus.
C'est le Christ.
D'accord? Ouais. Donc, il n'y a personne d'autre. C'est certainement... Jésus n'a aucune autre possibilité d'interprétation là-dessus. Donc, il va l'enfermer où? Dans l'abîme. C'est quoi l'abîme? C'est ça la question aussi. D'accord? L'abîme, c'est le mot qui est utilisé au début à la création. Donc, ce qu'on appelle le tohu, vohu.
En hébreu. Mm-hmm.
D'accord? C'est la terre dans un état chaotique, en quelque sorte, avant la création du monde, en quelque sorte. Donc, c'est sûr aussi, c'est un mot que des fois on utilise pour la mer, hein, l'océan, là où tout bouge, en quelque sorte. Et donc, c'est un retour au début. Parce qu'il y aura une nouvelle création plus tard, hein? Nouveau ciel, nouvelle terre. Donc, la terre va être dans un état terrible.
Et le fait qu'il ait dit que le diable est lié pour 1000 ans dans cet abîme, c'est-à-dire sur cette terre dévastée...
C'est ça, l'abîme, c'est notre planète dans un état catastrophique, simplement. D'accord? Parce que dire qu'il y a une place, un lieu caché sous terre où le diable va être enfermé, c'est pas biblique, d'accord? Le mot abîme, c'est un mot très large d'interprétation. Oui.
Le fait qu'il soit lié, c'est le fait qu'il n'a en fait plus l'occasion d'exercer son œuvre, ni de séduction, de tentation, ou de faire souffrir qui que ce soit.
C'est ça. Donc, c'est un ange, c'est pas un être humain comme nous. Un ange, tu peux pas l'enfermer n'importe comment. C'est pas juste un ange, c'est un chérubin. D'accord. Donc, quel va être les moyens pour limiter le pouvoir de cet ange, de ce chérubin? C'est le laisser sur terre, simplement. Et les justes et les autres vont partir ailleurs. Donc, il ne peut rien faire.
Les justes lui ont échappé puisqu'ils sont avec le Christ.
Exact.
Et les autres ont été détruits par l'éclat du Christ. Donc, il n'y a plus personne sur cette terre, si ce n'est que le diable et ses
anges. C'est ça. Et donc, il est possible. Donc, il y a certains versets qui parlent du jour du Seigneur. Donc, comme on a un jour dit, c'est le retour de Jésus. Et après, la terre, d'après ces textes, dont Joël et d'autres, ils mentionnent que le soleil s'éteint pendant un certain temps. Mm-hmm. D'accord? Donc, si la terre est congelée à un niveau zéro, là, je veux dire, il n'y a personne qui habite ici, hein, pendant ces temps-là. Pendant ces 1000 ans, la terre, c'est un débris, hein, c'est rien du tout.
Donc, et c'est comme ça qu'il faut comprendre donc, le fait qu'il est jeté dans l'abîme, qu'il est... Ensuite, c'est scellé sur lui. Il ne peut plus séduire qui que ce soit.
C'est ça.
Et il est lié.
Il est démuni. Ben, il y a quels autres anges mauvais qui sont avec lui,
donc,
simplement.
Sur la terre, les 1000 ans ne sont pas, comme certains l'ont dit, une ère de paix ou quoi que ce soit. Sur la terre, les 1000 ans, c'est la dévastation totale.
C'est ça. C'est, en tout cas,
il n'y a plus rien.
Bibliquement. Alors, ceux qui cherchent à trouver des gouvernements ou des périodes de paix ou d'évangélisation même pour certains auteurs, ils vont à l'encontre du caractère de Dieu. Hein. Imagine-toi, on enferme le diable et tous les siens, bien sûr, et les gens sont obligés de suivre Jésus. Mmh. c'est pas le caractère de Dieu qui est d'obliger personne. C'est toujours le choix que de suivre Dieu.
Et puis, si Dieu pouvait faire ça, alors pourquoi il l'a pas fait depuis le début?
Ben, c'est ça.
Il y a une grande question là. Une grande question. Alors ça, c'est la première partie du texte.
C'est ça.
Ensuite vient une autre section où là, on change de caractère à partir du verset 4.
Exact.
Alors on va lire à partir du verset 4, Apocalypse 20, verset 4 et suivant. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alors ici, il est à nouveau question des 1000 ans. C'est bien la même période, mais dans une toute autre perspective.
C'est ça. On est du côté des justes et ce qui se passe dans le ciel ici. D'accord. Donc, ils ont été amenés là-bas et ils vont avoir une fonction auprès de Dieu, car le mot trône, par exemple, c'est toujours dans l'Apocalypse en référence au Dieu et au ciel.
Alors, ce que vous nous dites, c'est que quand il est dit « je vis des trônes », dans l'Apocalypse, ça veut dire que ces trônes-là sont des trônes célestes.
C'est ça, c'est dans le ciel, oui.
Et sur la terre, tout est dévasté, il n'y a plus personne, mm-hmm. si ce n'est le diable et ses anges. Dans le ciel, les élus sont avec le Christ et ils jugent, dit le texte.
Voilà. Donc, quel jugement vont-ils faire? D'accord? Parce que dans son jugement, il y en a plusieurs étapes. Hein, plusieurs. Et je ne crois pas qu'ils vont décider qui va être sauvé, qui va être perdu, parce que c'est ça, c'est le rôle de Dieu lui-même. Mais ils peuvent constater le jugement de Dieu, comprendre pourquoi un tel a été sauvé et un autre a été perdu. Comprendre, par exemple, Paul, comment dire, Étienne va comprendre pourquoi celui qui a participer à sa lapidation, va être présent à ce moment-là. Et pourtant, il y a en quelque sorte acquiescé et participé à sa mort. Mm-hmm. D'accord? Comment cet homme a changé? Il va falloir qu'on comprenne énormément de choses, parce que s'il y a bien des surprises que nous aurons dans le ciel, c'est pourquoi un tel n'est pas là? Pourquoi un tel est là? Et que je ne croyais pas. Et bon, pourquoi je suis là, d'une certaine façon? Donc, et tout ça, il va falloir comprendre et s'expliquer pendant cette période.
Bon, ça, c'est quand même important, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ces justes dont il est fait mention là, ceux qui ont été décapités, ceux qui ont résisté à la fausse adoration, ceux qui n'ont pas reçu la marque sur leur front, donc en fait, ce sont tous les élus fidèles qui sont...
C'est ça, les deux groupes, si tu remarques, ce sont ceux qui sont morts dans le passé. C'est Thessaloniciens chapitre, donc c'est à la fin de la première épître de Thessaloniciens, aussi c'est la même chose. Les deux groupes, c'est les justes qui étaient morts, qui ressuscitent, et les justes vivants qui ont traversé la grande persécution, ils sont là présents, donc ceux qui ont reçu le sceau de Dieu, ils ont refusé la marque de la bête, c'est ça qu'il dit le verset. Mm-hmm. Hein, donc, refusé la marque de la bête dans les mains ou le front, ce sont eux qui sont là et qui participent.
Et si je me souviens, il y a un texte dans l'épître de Paul aux Corinthiens qui dit que les saints, donc les élus, jugeront le monde.
C'est ça, c'est ça le rôle. Et c'est ça qu'il a dit aussi à ses disciples. Hein. Vous serez 12 trônes et vous allez juger encore. Donc, quand ça va se passer, c'est pendant les 1000 ans.
Pendant les 1000 ans. Et encore une fois, ce n'est pas parce que Dieu a besoin de qui que ce soit pour l'aider à juger.
Non, mais il faut bien comprendre que le plan de salut, donc c'est la méthode que Jésus utilise pour nous sauver, elle ne comprend pas seulement Dieu et nous. C'est tout l'univers qui veut savoir, qui veut comprendre. Les êtres d'ailleurs, les anges et bien d'autres, et ils sont très intéressés à comment les choses se passent et ils veulent comprendre. Donc, ça prend certainement du temps. Et donc, il faut que Dieu expose ça à l'univers tout entier.
Le caractère de Dieu consiste à vouloir justement associer ses créatures pour qu'ils comprennent et pour qu'ils le servent par amour, avec une pleine conviction et non pas par peur, par obligation.
C'est ça la grande accusation de Satan. Et Dieu ne peut pas omettre de suivre une certaine méthode pour faire les choses.
Donc, on peut dire que ces 1000 ans mm-hmm. dont on parle souvent, c'est essentiellement une période au cours de laquelle les enfants de Dieu, ceux qui sont avec lui, vont avoir une plus claire compréhension mm-hmm. à travers le jugement du caractère de Dieu et du fameux pourquoi
C'est ça. Et c'est ça, j'ai eu des personnes dans mon entourage qui ont perdu des proches, qui se demandent pourquoi. Voilà, c'est ça la question. Pourquoi? Eh bien, on aura l'occasion, la possibilité, le temps nécessaire de voir toutes les issues et toutes les données qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on voit comme des choses injustes, comme des choses incompréhensibles. Mais seulement Dieu voit le tout. D'accord? Et là, on aura l'occasion de prendre notre temps et d'aller dans les archives, de voir des vidéos, je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas...
Des vidéos divines.
Divines, d'accord? Et de sur l'Eurogaram, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, mais on va comprendre et faire la paix avec Dieu, en quelque sorte, parce que c'est ça notre problème parfois. Hein. On ne comprend pas. C'est juste parce que le mot « pourquoi », on n'arrive pas à le répondre.
La période des mille ans, c'est la période de la réponse à tous ces pourquoi.
C'est certain.
Et alors, il est dit ici que les autres morts ne revinrent pas à la vie. C'est la première résurrection, ce qui laisse entendre qu'il y aura une seconde résurrection.
C'est ça, la résurrection des injustes qui suit le mille ans. Donc, c'est le retour, c'est ça qu'on voit dans la suite. Donc,
bon, à partir du verset 7, alors on va lire à partir du verset 7. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints, la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora.
C'est ça. Donc, c'est une deuxième étape, c'est la fin des mille ans. Ceux qui ont été au ciel ont fait le travail qu'il fallait être fait. Et c'est le retour. C'est quand j'explique aux enfants, je dis, c'est comme une sorte de grande navette spatiale qui arrive sur Terre. Et c'est ça la Nouvelle Jérusalem qui se réinstalle cette fois-ci. Et Zacharie 14 nous parle d'une place réservée déjà pour que cette ville s'installe. Et donc, lorsque cette ville s'installe, les injustes sont ressuscités. Le diable fait encore un travail de persuasion et va réussir à rassembler donc tous ces sept qu'il avait suivis dans le passé. Ils vont se faire tromper encore une fois pour chercher à attaquer la ville sainte. C'est ça qu'il dit donc le verset. Mais verset 9, et investir le camp des saints et la ville bien-aimée, que c'est la même chose, quoi. D'accord? Et un feu descend du ciel et il les détruit tous.
Cette seconde résurrection, parce que la Bible parle en fait uniquement de deux résurrections.
Il y a,
je pense à l'évangile de Jean, je pense au texte dans les Actes des Apôtres qui disent qu'il y a une résurrection des justes, donc pour la vie avec Christ, et une résurrection des injustes, donc pour le jugement. Ici, on a affaire à la deuxième résurrection pour le jugement final. Mais ça montre aussi que ceux qui ressuscitent n'ont pas changé de... d'état d'esprit.
C'est ça, il n'y a pas de conversion de méchants à ce moment-là. C'est le jugement, c'est la destruction, c'est la fin, c'est tout.
Et cette dernière intervention de Dieu, finalement, est quand même une intervention assez dure, parce que finalement, Dieu n'a pas créé des êtres pour les détruire.
C'est pour ça qu'on appelle dans la Bible l'œuvre mystérieuse de Dieu, que le châtiment. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu n'aime pas détruire. Mais en même temps, un peu comme un grand docteur qui est obligé d'amputer des fois un membre pour sauver la personne, Dieu est obligé aussi d'éradiquer le mal pour que le bien reste et que la vie continue. Il n'a pas beaucoup de choix là-dessus.
Il ne peut pas y avoir une éternité de bonheur, comme le promet la Bible, sans que le mal et ceux qui font le mal soient aussi éliminés.
Exact. Donc, bibliquement, ça n'existe pas, l'enfer éternel. D'accord, c'est une doctrine...
L'enfer de souffrance éternelle.
De souffrance éternelle, dans laquelle Dieu se plairait à voir des êtres souffrir pour toujours. Ça n'existe, en tout cas, c'est...
D'après le message biblique,
d'après le message biblique, donc c'est la destruction, certes, jusqu'à que le dernier soit totalement détruit, le diable lui-même, c'est ça qui dit le verset qui suit, dans le verset 10. D'accord, il va être détruit lui-même, le mal va être éradiqué. Et comme dit c'est le chapitre 20 à 21 et le verset premier, donc il n'y a plus ni larmes, ni douleurs, c'est fini, ça n'existe plus le mal. Le mal va être totalement détruit à ce moment-là.
Donc on pourrait dire que le millénium de l'Apocalypse, c'est la dernière étape avant que Dieu puisse établir enfin cette nouvelle terre, ce royaume de paix, d'amour et de justice qu'il a promis. Il faut que, d'une part, le diable, ceux qui lui appartiennent, aussi bien dans le monde des anges que dans le monde des humains, soient jugés. Et ça, c'est ce qui se passe dans le ciel avec les élus. Et puis, il faut finalement qu'il y ait la sentence, l'exécution du jugement, c'est-à-dire la destruction de ceux qui ont refusé l'amour de Dieu.
C'est ça. Et comment dire, la destruction du feu, ça existe. Elle aura place. Mais le problème, c'est qu'on la met aujourd'hui. D'accord ? On le met sous terre, hein, pour ceux qui croient à l'enfer. Elle aura lieu, oui, mais à la fin. Et ça va durer le temps que Dieu aura décidé, très peu de temps en réalité, parce que le mot éternel veut dire selon le temps de Dieu. Donc, combien de temps, c'est celui que c'est. Mais après ça, c'est ce qui nous intéresse à nous, en tant que croyants, c'est l'après. Nouveau ciel, nouveau terre, chapitre...
On pourrait lire, au moins, le début du chapitre 21 de l'Apocalypse. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. »
Et ce n'est pas seulement sur terre, dans l'univers. La souffrance, le mal n'existera plus. Ça sera chose de passé.
Ce à quoi notre cœur aspire au plus profond sera enfin réalisé à la fin des 1000 ans.
Oui, c'est la promesse.
Merci Louise Bucogna d'avoir partagé rapidement avec nous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce sujet controversé, vous pourrez dans quelques instants tirer profit de notre offre de la semaine qui reprendra ce sujet en allant encore plus loin dans tous les textes bibliques. Mais Louise Bucogna, je reviens vers vous et j'aimerais qu'on puisse terminer en priant ensemble pour que Dieu nous prépare et mette en nous cette espérance vivante de ce royaume qu'il a en réserve pour nous.
Certainement. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, de ces promesses que nous trouvons dans ta parole. C'est un plan qui, certainement, nous échappe à la compréhension, mais c'est ton plan et il est parfait. Alors nous voulons non seulement le comprendre, mais mettre en pratique aussi les leçons que tu nous en tirons. Seigneur, tu es un Dieu juste, un Dieu d'amour, et tu sais pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Mais nous attendons, Seigneur, avec un grand désir, ces nouveaux ciels, nouvelles terres, où la justice habitera, où il n'y aura plus de larmes ni de pleurs, où la souffrance aura disparu. Prépare-nous, Seigneur, pour ce moment-là et fais de nous, Seigneur, ceux qui te suivent et puissent être présents avec toi à ce moment-là. Reste avec nous, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestecrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515.
Il est bien clair que le sujet qu'on a abordé aujourd'hui est un sujet difficile qui demande d'y revenir, d'étudier en profondeur et qu'on a pu seulement l'aborder d'une manière un petit peu superficielle. Alors, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez profiter de notre offre de la semaine. J'en parle avec France. Bonjour France.
Bonjour Rémi.
Et bonjour Sylvain.
Bonjour.
Alors, pour aller plus loin sur ce que Louise Bucogna vient de partager avec nous, pour pouvoir reprendre les éléments, approfondir.
Oui, on a un tout petit livret d'Il est écrit, qui a été conçu par Il est écrit. En fait, ça s'appelle tout simplement Le Millénium, pour ceux qui... Là, je ne l'ai pas entre les mains, mais il est en train de... Il est en production. C'est ça. Alors, Le Millénium, c'est un livret qui va permettre à nos auditeurs d'aller voir tous les fondements de l'enseignement qu'on a entendu aujourd'hui, que ce soit l'ordre dans lequel les événements vont se dérouler, pourquoi, comment, tout ce qui tourne autour du jugement aussi. Et il va y avoir beaucoup de textes bibliques. Donc, les gens qui veulent vraiment faire une étude approfondie, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de théories autour du millénium. C'est pour ça, je pense, qu'on a fait cette émission-là pour bien éclaircir le sujet. Alors, pour 5 $ seulement, les gens peuvent prendre le livret et aller voir toutes les références bibliques, faire une étude approfondie.
Et là, il y a non seulement une étude sur Apocalypse 20, donc le texte de base, mm-hmm. mais il y a aussi mm-hmm. des références dans ouais. bien d'autres textes de la Bible, des parallèles bibliques.
Ouais. Je pense que ça vaut la peine. Quelqu'un qui veut vraiment savoir ce que la Bible dit, on a un beau portrait.
Un document qui a été construit par l'équipe d'Il est écrit, ouais. avec l'aide justement de Louise Vicuña.
Ouais.
Merci France, on va rappeler dans un instant. Mm-hmm. Et puis un peu dans le même ordre d'idée, Sylvain, pour ceux qui veulent connaître, approfondir le message biblique,
oui.
tu veux nous rappeler qu'il existe un cours qui s'appelle Découverte.
Oui, c'est ça. Bien, on a notre cours biblique Découverte qui est connu depuis longtemps. Maintenant, ce que j'aime de ce cours-là, il est simple. Il nous permet de parcourir la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et d'ailleurs, on a une étude consacrée au millénium. Je pense que c'est l'étude numéro 22 de mémoire. Puis ouais. ça nous permet de découvrir des versets qui, finalement, peut-être qu'on n'a pas vus à la lumière avec d'autres versets.
En fait, Découverte, ouais. c'est l'étude de tous les grands thèmes de la Bible.
Voilà.
Et j'ai envie de dire des grands thèmes de la vie aussi. À travers la Bible. Et on peut le faire de différentes manières, ce cours.
Oui, c'est ça. On peut le faire soit en personne. Évidemment, ceux qui nous appellent, on a quand même des ressources qui peuvent se déplacer pour vous aider, vous accompagner aussi dans votre étude. On a aussi, bien sûr, par correspondance, beaucoup de gens aiment nous écrire.
Ouais.
Donc,
on a toutes les semaines.
On a plusieurs.
C'est ça. Puis, on a finalement aussi en ligne, c'est très connu, on a notre site web qui nous permet, donc, le cours de Bible en ligne, Découverte, qui va vous permettre de poursuivre votre cours à la maison.
Un mot quand même sur le cours en ligne, parce que le cours en ligne, il faut qu'on soit honnête, on a eu quelques difficultés avec pendant un moment, mais là maintenant, on a retravaillé dessus, il est nickel, impeccable.
Et on est en train de toutes les poussetter comme il faut, mais c'est un gros morceau à travailler, ça. Ça paraît pas, là, mais au niveau de la programmation, c'est quelque chose. Puis je pense que notre équipe va travailler fort pour faire...
C'est ça, puis on a essayé aussi de la rendre plus simple et plus dégagée. Voilà. Donc, parce que je vous invite à
aller sur le site, donc ilestecrit.tv,
ouais, voilà.
et à pouvoir s'inscrire au cours et pouvoir le suivre.
Je dirais aussi aux auditeurs de ne pas hésiter à nous appeler si on a des problèmes.
Exact.
Comme ça, au moins, on peut savoir que ça ne fonctionne pas.
Merci à tous les deux.
Plaisir.
Alors, si vous voulez obtenir votre exemplaire de ce petit livret intitulé « Le Millénium », n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nos coordonnées vous sont rappelées dans un instant. Et puis, visitez notre site ilestecrit.tv. Et allez voir notre nouveau cours biblique Découverte.
Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestecrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal. Et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal.
Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de cette émission. J'espère que vous aurez, à travers cette émission, eu le désir d'en savoir un peu plus sur cette fameuse période des 1000 ans. N'oubliez pas, encore une fois, de profiter de notre offre de la semaine. Moi, je vous retrouve avec toute l'équipe la semaine prochaine. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »